Ceci est un communiqué du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Bonjour à toutes les radios, bonjour à tous et à toutes. Nous vous adressons ce communiqué pour vous donner des nouvelles de Vincenzo et du comité de soutien de Rochefort-en-Terre. Il s'est passé quelque chose de très important la semaine passée, le refus de la mise en liberté conditionnelle par la Cour de Rennes. C'était le 27 septembre, c'est un coup dur, car chacun pensait le revoir, faire le point, parler à un autre Vincenzo que le Vincenzo clandestin. Sa liberté conditionnelle, tout le monde l'attendait. D'une part, il l'avait bien mérité pour qu'une scope l'engage sur un CDI et que l'avocat puisse glaner en quelques heures 50 lettres de soutien, affirmant qu'il était bien intégré, mais c'était aussi quelque part une récompense pour le comité de soutien et sa mobilisation. Après 8 ans de clandestinité, la Cour n'a pas envie de voir notre ami se faire la belle à quelques jours d'une audience déterminante. Le jeudi 10 octobre, donc très bientôt, nous saurons si l'Italie a envoyé les documents que lui réclame la Cour. Ensuite, sera fixée une date d'audience. Au cours de cette audience, les juges vont se prononcer sur la validité des 2 mandats d'arrêt européens, MAE. On sait que l'un concerne une peine déjà purgée, celui de Milan, et que celui de Gênes est incomplet. Ce n'est pas un jugement, mais une décision administrative. Il n'y aura pas d'à peu près, c'est le renvoi en Italie ou le maintien en France. Le feuilleton n'est pas terminé, de nombreux soutiens se sont exprimés, nous verrons s'ils sont entendus. Encore une fois, nous remercions tous et toutes, solidaires, signataires de la pétition, groupes de soutien, signataires de la tribune et de courriers au gouvernement. La mobilisation reste plus que jamais nécessaire. Rendez-vous sur www.comité-soutien-vincenzo.org et sur le Facebook @soutienvincenzo.
Bonjour à toutes et à tous. Ceci est la 3e émission du comité de soutien de Vincenzo Vecchi de Rochefort-en-Terre. Le 5 octobre dernier, lorsque nous avons envoyé le communiqué que vous venez d'entendre, nous ne savions pas si la justice italienne enverrait les pièces complémentaires réclamées par le tribunal. Et finalement, un gros dossier est arrivé, juste à la date limite. Il est maintenant à l'étude. L'audience devant déterminer la validité des mandats d'arrêt européens est fixée. Ce sera le jeudi 24 octobre à 9h au Parlement de Rennes, mais le verdict ne sera connu que le 31. Au moment où nous terminons cette émission, seuls quelques jours nous séparent de cette date. Nous sommes tous sous tension à l'attente de ce jugement. L'idée qu'un ami puisse partir pour une détention aussi longue nous paraît irréelle, inconcevable, inacceptable, et nous sommes pleins d'espoir et de détermination. Vincenzo, déjà condamné pour l'exemple, ne doit pas servir de trophée en Italie. Gênes 2001. Le choc. Nous avons choisi de faire cette émission un numéro spécial sur Gênes, qui est le point de départ de toute cette affaire, à travers des témoignages que nous avons recueillis au fil de nos rencontres. Il nous paraît important de reconstruire la mémoire de Gênes, de s'opposer au travail de désinformation des médias conventionnels zoomant à fond sur les black blocs pour justifier le massacre du mouvement intermondialiste à court de lacrymogènes et autres moyens ultra-violents. Pour commencer, nous vous emmenons au cinéma près de Rochefort-en-Terre pour découvrir Diaz, Crime d'État, un film tourné en 2012 qui est une reconstitution dramatique des événements qui ont valu à l'Italie d'être condamnée en 2015 par la Commission des droits de l'homme.
Donc on est au cinéma Iris pour voir le film Diaz qui relate les événements de Gênes, la grande manifestation à l'occasion de laquelle il y a eu une répression policière terrible et à laquelle a participé Vincenzo Vecchi. Et Vincenzo qui vient d'être arrêté au mois d'août, enfin, ça fera 2 mois le 10, et qu'il est en prison. Voilà, et pour lequel un comité de soutien a été organisé pour le défendre. Et voilà.
Bonsoir.
Bonjour.
Oui, bien sûr. Et en fait, il s'agit d'un film qui va parler de la répression policière qui a été majuscule, énorme, scandaleuse lors de la manifestation de 2001 à Gênes. Et Vincenzo, là, qui est en Bastillé, voilà, c'est une action de soutien pour reparler de cet épisode et aussi de penser à Vincenzo. Et en espérant que ça se terminera bien pour lui et pour d'autres. Et qu'il ne sera pas extradé. Ni qu'il reste en Bastillé ici. Quoi.
Bah alors, ça ne nous a rien appris à nous, les anciens. Les gens qui ont connu ça et qui ont écouté ça partout, qui ont fait ça de près, pour moi, ça n'a pas donné grand-chose, ça rappelle. Mais c'est le même cas partout actuellement. Falsification des flics qui tapent, qui massacrent, voilà. Tout ce que j'ai à dire dessus. Hein.
Du coup, c'est assez choquant, mais ce qu'on était en train de dire, justement, c'est qu'on peut faire des parallèles avec des choses qu'on a pu vivre un peu plus récemment. Tout aussi choquante, même si les armes ont sûrement changé. Maintenant, il y a des grenades explosives, il y a beaucoup de choses comme ça et qui créent des traumatismes physiques, mais aussi psychologiques pendant très longtemps, quoi. Sans parler de la répression judiciaire qui vient bien après, des fois. Mais oui, je disais justement, il peut avoir des syndromes post-traumatiques comme certaines personnes ont connu dans des cas de guerre, de conflits armés. Et que ça poursuit les gens. Il y a des gens qui gardent des éclats de grenades dans les jambes, voire jusqu'aux organes génitaux pendant des années, toute leur vie, des traumatismes aussi. Après, on est tous un peu sonnés par le film. Et ça me faisait penser justement, je suis resté un peu là-dessus dans le film, à faire le parallèle avec quelque chose qui s'est passé avec les Gilets jaunes au printemps dernier à Paris, où il y a des gens qui sont fait coincer devant un fast-food comme ça. Et qui sont fait un peu tabasser sans distinguer. Voilà, ils ne s'attendaient pas à tellement de violence, quoi. Et souvent, moi, je constate, c'est aussi des fois, même dans des manifestations plus classiques, c'est des gens qui pensent n'avoir rien fait, comme on a pu voir dans le film aussi, qui pensent être légitimes, parce qu'ils sont innocents et tout, et qui lèvent les mains, et c'est eux qui vont être en première ligne pour se prendre un coup. Parce qu'il suffit d'un coup de matraque, là c'était de la violence assez très poussée, mais rien qu'un coup de matraque, ça peut faire des douleurs pendant des mois, ça peut être très traumatisant, quoi. Alors les autres armes qu'il y a depuis, parce que les flashballs sont arrivés pas longtemps après Gênes en 2001, hein, 2005 je crois, c'est Chirac qui a mis ça en place. Maintenant il y a des grenades explosives de différentes sortes, c'est... Donc c'est des schémas qu'on peut retrouver encore aujourd'hui, où ce qui a été à Gênes, ça a été de créer une violence des manifestants pour justifier la répression, parce qu'il fallait réprimer, c'était les ordres qui étaient donnés. Et on a créé une histoire de toutes pièces pour justifier qu'il y a eu une répression de l'État envers les manifestants, mais sans faire de distinction. Après, ils ont apporté des preuves, ça c'est ce qu'on voit dans le film. Et ensuite, on a créé aussi, judiciairement, il y a eu des poursuites très lourdes pour montrer que c'était à la hauteur de la violence qui a pu être dans la police. Je pense que c'est ce qui s'est passé pour Vincent et les autres qui ont été condamnés à des peines très 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 lourdes. C'était aussi à la mesure de la violence de la police, je pense. C'était pour couvrir un peu ça et rester dans des échelles qui étaient comparables, quoi.
Les témoins que vous allez entendre étaient présents à Gênes. On ne connaîtra pas leur nom. Ils étaient 300 000 venus de toute l'Europe et du monde entier pour exprimer leur point de vue. Et d'autres, qui n'étaient pas à Gênes, y avaient des amis ou des parents. Beaucoup attendaient quelque chose du contre-sommet et avaient les yeux rivés sur la capitale de la Riviera italienne.
Comment vous expliquer ça ? Le sentiment, quand on s'appelle, que les forces de police étaient énormes, énormes, énormes. L'objectif, vraiment, ce qu'on avait en truc, c'était faire en sorte de faire capoter ce G8. Voilà. Il y avait du monde, parce que moi, j'ai pu croiser d'autres nationalités que françaises et tout. Puis il n'y avait pas que des jeunes, il y avait de toute génération. Mais à Gênes, c'était comment ? Ça fait partie du pic de ce que j'ai vu dans d'autres situations. Le pic dans dans cette violence, dans ce décharnement. Des filles, je me souviens, traînées par les cheveux, recevant des coups de matraque, des coups de pied, des hurlements de douleur. Et on voyait un moment avec des engins d'armée ou de police qui avançaient comme ça. C'était terrible. Et puis des lacrymos à quoi que ce soit. Et puis le bruit courait et tout, qu'il y avait des provocateurs. Et donc, si jamais on se retrouvait avec tel groupe, c'était eux qui étaient justement peut-être de la police ou des extrêmes droites ou des auxiliaires. Et il y avait une sorte de parano qui s'était emparé de tout. On commençait de plus en plus à avoir peur, mais vraiment très peur. Ça allait dans tous les sens, les charges, ces engins qui me faisaient peur, qui avançaient très vite et tout. Et puis qu'on était séparés de plus en plus et qui tronçonnaient les choses dans tous les sens que ça allait. Puis comme je vous expliquais, cette panique des groupes et tout, donc on ne savait pas avec qui aller, quoi que ce soit. Et donc il n'y avait plus aucune coordination, plus aucun truc. Mais là, j'ai senti plus, à la gêne, je veux dire, pour ne pas avoir un sentiment et tout, comme une boucherie. Enfin, on n'avait aucune chance.
L'autre fois, tu nous parlais aussi de techniques de gendarmes, d'écarter les jambes des gars, de leur écraser les couilles.
Je l'ai vu là, mais vraiment presque systématiquement. Mais j'imagine, vous êtes attrapé, vous avez reçu des coups, vous êtes mis à terre, et on vous écarte les jambes, c'est déjà horrible, pour avec des grosses rangers ou quoi que ce soit, vous frappez, ça peut déjà vous rendre impuissant ou même peut-être vous tuer, mais bon, quoi que ce soit. Mais la douleur, elle est horrible. Et puis aussi, comment ça s'appelle, c'est quelque part qu'on est peint, un truc comme ça, il faut voir, ça s'applique presque à de la torture. Hein. Quelque part, c'est une horreur. Là, on ne veut pas obtenir de renseignements, peut-être plus tard, je ne sais pas.
Et le sentiment après gêne, donc c'est la frustration, j'imagine. Enfin,
c'est pas la frustration, c'est une sorte de, comment ça s'appelle, de colère, même, allons pas dire jusqu'à la haine, mais de colère pour ces chefs d'État qui se permettent tout et quoi que ce soit, de tuer quelqu'un, de lui tirer dessus, et que surtout, on avait bien compris, enfin après, quoi que ce soit, qu'il allait bien sûr rien arriver, au truc comme ça, que ça s'excusait et tout. Et que là, la colère, elle était d'autant plus forte que là, c'est carrément au pistolet. On tire à bout portant sur un jeune. Je tiens aussi à dire une chose qui est arrivée un petit peu plus tard. J'étais déjà revenu en France. Mais cette phrase que je n'ai jamais oubliée, quoi que ce soit, et qu'on retrouve, ni pardon, ni oubli.
Sauf que dans les faits, il y a eu du pardon pour les carabiniers et pas d'oubli pour un copain comme le nôtre, 18 ans après, quoi.
Et ce que je suis, juste dernière chose, très très étonné, c'est que cette affaire ressorte 18 ans plus tard. Alors là, ces gens-là, moi j'ai dit ni pardon ni oubli, eux, en tout cas, c'est sûr, ils n'ont pas pardonné, pourtant c'est eux qui ont fait les choses, et ils n'ont pas oublié. Ça, c'est la preuve. Alors là, c'est nous qui sommes des petits joueurs à côté d'eux.
Alors moi, j'étais alité ces jours-là et j'ai tout regardé à la télé. Donc, tous les émissions en direct. Donc, même le matin, de toute façon, je ne pouvais pas bouger. Dans la télé d'État, il y avait les images du cortège qui commençait, des charges. La police qui chargeait le cortège qui ne faisait rien. Il y avait des affrontements entre la police et les soi-disant Black Blocs. On a vu passer des images aussi de personnes qui habillaient en Black Bloc, on va dire, et qui se réfournissaient de bâtons et autre chose dans des furgons qui étaient, je me rappelle bien l'image, parce que c'était un lieu désert. Les lieux déserts, c'était la zone rouge, donc c'était que la police les autorisait qui pouvaient rentrer dedans. Donc il y avait des personnes qui se réfournissaient de bâtons et tout dans des furgons qui étaient autorisés à rentrer dans la zone rouge. Donc il y avait plein de choses qui se passaient, que je voyais de la télé et qu'on ne comprenait pas. Et il y avait cette angoisse qui montait parce que c'était la première journée et puis c'était la deuxième. Et je regardais, je ne comprenais rien. Ça montait l'angoisse. Quand Carlo Giuliani il est resté par terre, là, tu t'interrogeais. Et c'était qui? Parce qu'on a vu une personne par terre, en direct. Bah, l'angoisse de savoir qui était resté par terre, parce qu'on voyait bien qu'il ne bougeait plus. Quoi.
Lo muoverò per riconquistare la dignità di me stesso al mondo ed il dovere di camminare. A testa alta guardando il fondo, guardare a fondo, guardare il mare, guardare il punto fermo sull'abisso, vedere tutto tornare a urlare,
fronte spezzata da un chiodo fisso, fronte spaccato, fronte diviso, fonte che anneghi al pozzo San Patrizio, del mare rosso del nostro sangue plebeo, che soffoca nel precipizio, che soffoca nel precipizio. Quando ritorneremo a Genova, ritorneremo sopra la criniera bianca dell'onda che si frange, al frangiflutti che mangia la sera e scuote il senso del presente, della memoria che si schianta. Quando Genova ritornerà, quella del luglio del 60, quando ritorneremo a Genova e quando Genova sarà tornata, quando torno al nostro inverno, la resistenza verrà dichiarata, quando in tutto quest'inferno ritroveremo i nostri sentimenti, terremo in braccio alla natura.
Io a Genova ero molto piccolo, avevo 16 anni, e quindi
a Gen,
ricordo come la prima manifestazione grande
della
mia vita. E
je m'en souviens comme de la première grosse manifestation de ma vie.
Con degli amici e di essere arrivato a Genova il
Je me souviens être parti en voiture avec des amis
di essermi fermato
et d'être arrivé à Gênes le mercredi, d'y être resté quelques jours.
C'est
difficile à raconter. C'est trop vague.
Io quando siamo andati a Genova e avevamo già fatto
Moi,
era tutto un periodo.
Quand on est allé à Gênes, c'était une époque où il y avait beaucoup de contre-sommets.
C'erano stati vertici dei potenti del mondo.
Il y avait eu des sommets des puissants de ce monde. L'Unione Européenne, l'OMC.
Grosse contestazioni. Poco prima di Genova, del vertice di Genova del G8, c'era stato un vertice.
Peu avant le sommet du G8 à Gênes, il y avait un sommet à Naples.
E dove
il y avait eu beaucoup de monde.
Erano state forse fatte le prove generali
e di quello che sarebbe successo a
Genova.
La première répétition générale de ce qui allait arriver à Gênes.
Carabinieri, guardia di finanze.
Il y avait une force policière énorme.
E scontri e
carabinieri,
anche una forte repressione
garde des finances.
Da parte delle forze di polizia.
Je me souviens d'affrontements.
Anche però molta solidarietà.
Et là aussi d'une forte répression de la part des forces de l'ordre.
Di Napoli.
Mais il y avait aussi beaucoup de solidarité de la part des gens de Naples.
Portavano le notizie che molte persone, abitanti, avevano aperto i portoni.
Même les journaux rapportaient que beaucoup d'habitants avaient ouvert leurs portes pour faire entrer les manifestants.
I limoni per i lacrimogeni, avevano aiutato a scappare.
Ils faisaient descendre des paniers de leurs fenêtres avec des cordes pour fournir des citrons contre les lacrymogènes.
Con tutto questo entusiasmo, mi ricordo che erano a Genova.
Ils ont aidé des personnes à s'échapper. Alors nous, on est allé à Gênes avec tout cet enthousiasme.
Anche noi che eravamo andati lì,
le dernier jour,
gruppi,
le troisième jour à Gênes,
eccetera,
il y avait 300 000 personnes dans la rue.
Le altre giornate era molto facile perdersi in mezzo a questi spezzoni di
Même
cortei,
pour nous, qui étions venus là, avec nos groupes de référence,
di cortei,
dans le cortège du troisième jour,
tipi,
et aussi pendant les autres journées,
di donne,
il était très facile de se perdre au milieu de tous ces cortèges.
Incappucciate, cortei più
il y avait
grossi,
des gens et des petits cortèges de tout type, immigrés, femmes, personnes en capuchonné et de plus gros cortèges un peu partout.
Sociale,
les journaux et les médias de masse
già si capiva
ont préparé Gênes avec une grande alarme sociale.
Molto forte.
On comprenait déjà qu'il allait se passer quelque chose de fort.
E cosa sarebbe successo dal punto di vista
Mais personne ne pouvait imaginer ce qu'il allait se passer du point de vue répressif.
O nella caserma di Bolzaneto, eccetera.
Comme ce qui était arrivé à l'école Diaz.
Ancora forse non si poteva
o alla caserma di Bolzaneto.
Proprio volute, eccetera.
Ces choses-là ne pouvaient pas encore être imaginables.
Un momento,
les tortures délibérées et bien d'autres choses encore. Mais Gênes a pourtant été un moment de grand enthousiasme.
A darsi degli obiettivi,
certains ont quand même réussi à se donner des objectifs,
simboli,
à toucher au symbole,
le banche,
disons,
le
carceri, du capitalisme,
eccetera. Questo avveniva, è venuto
les
anche
banques,
negli altri
les prisons.
Eccetera. E, la cosa
C'est aussi arrivé dans les autres contre-sommets.
Forte di,
ce qui a été pesant
Genova,
et fort à Gênes,
il dopo
ça a surtout
Genova,
été
perché,
l'après.
Ci sono, diciamo, la stampa, la polizia, la stampa, la repressione,
la presse,
ha creato
la police,
questo mito
la repression ont créé ce mythe du black bloc.
Creato. Non che non ci fosse
il avait déjà été créé.
Black bloc,
ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'affrontement ou de black bloc,
tutti.
Mais les discours sur les affrontements, tout le monde faisait ses
choses.
Que ce soit habillé en noir, en jaune, en bleu ou en vert, tout le monde avait son objectif et cherchait à le mettre en pratique pendant les manifestations. Qui en faisait le plus, le moins, peu importe. Mais avec la répression qui a suivi, les accusations de dévastation et de saccage, les tortures, on a créé cet ennemi, le Black Bloc. Malheureusement, ce mouvement qui s'est exprimé à Gênes était un mouvement très ingénieux, notamment parce que l'Italie allait changer de gouvernement. On se préparait à l'arrivée d'un gouvernement de centre-gauche. Il y avait le slogan « Un autre monde est possible ». Mais personne ne disait comment on pouvait créer cet autre monde. Alors après Gênes, il y a une très forte dissociation, une très forte volonté de se mettre en rang et de prendre des distances, pas seulement vis-à-vis des Black Blocs, mais vis-à-vis du discours sur la violence.
E in Italia, in quel periodo, per esempio, la sinistra cosiddetta radicale, anche se istituzionale,
à cette époque, par exemple,
all'epoca era rappresentata da Rifondazione Comunista,
la gauche prétendument radicale, même si elle était institutionnelle, qui était alors représentée par Rifondazione Comunista,
e quindi sul discorso
avait fait de la non-violence leur cheval de bataille.
La criminalizzazione dei Black Bloc, eccetera, hanno affossato completamente un movimento.
Dopo avec Genova, le discours de la non-violence et la criminalisation des Black Blocs,
il problema era proprio settori,
ils ont complètement saboté le mouvement.
Da cui ti dovevi guardare le spalle, che
après
Gênes,
plus que la police encore,
piazze,
tu devais te méfier
tu,
de certains secteurs
tu,
du mouvement
in senso molto lato,
qui te signalaient,
chi, comunque,
te cherchaient dans les rues.
Da quelle giornate, esprimeva solidarietà.
Quand je dis tu, je parle de tous ceux qui refusaient de se dissocier de ces journées-là
et
qui exprimaient leur solidarité avec les condamnés, les détenus. Ils ont commencé à être regardés avec suspicion. Ils ont aussi été criminalisés par de gros secteurs du mouvement. Ça a été une blessure énorme qui n'a été recousue qu'en 2013, après la manifestation qui a suivi les journées de lutte du 29 juin au 3 juillet 2013, au Val de
Suse,
où toute la population du Val de Suse a défilé en cortège à Turin, après les arrestations qui avaient été effectuées. Et ils ont ouvert le cortège avec une banderole. Nous sommes tous des Black Blocs. À partir de là, à mes yeux, la blessure de Gênes 2001 s'est assainie. La gauche institutionnelle qui tenait ses discours a disparu de la scène politique. Un monde avait complètement changé.
Posso passare? Presidente?
No, devo andare al media center. Sono del Genoa Social Forum.
Infatti, uno dei motivi del disastro.
L'une des raisons du désastre qui s'est produit,
tanta gente picchiata
la répression,
per la strada, è stato uno di questi motivi.
Toutes ces personnes
perché
frappées
la
dans
città
la rue,
è fatta in un modo
c'est justement
dove,
ça.
Un corteo non poteva avere vie di fuga.
La ville est faite de telle manière qu'un cortège n'avait aucune voie de fuite. Ils pouvaient juste se laisser massacrer parce qu'ils avaient quasiment déjà tout programmé.
In qualsiasi momento, quando volevano. Anche
et ils attaquaient les cortèges n'importe quand, quand ils voulaient. Même les parties les plus pacifistes où il y avait des enfants, des personnes en fauteuil roulant, de très jeunes garçons, comme ceux qui étaient avec moi. J'étais déjà un grand garçon, j'avais 40 ans passés. Je suis allé à Gênes le jour qui a suivi la mort de Giuliani. J'avais d'abord pas voulu y aller parce que je voyais ce cortège comme un énorme cirque de personnes qui ne pensaient absolument pas les mêmes choses. C'est pour ça que je voulais pas y aller. Mais ils ont assassiné Carlo et j'ai décidé d'aller à Gênes par solidarité avec le reste du cortège. Puis il y a eu l'affaire de la Diaz, le désastre. Par chance, j'avais quitté le cortège le soir même. L'autre problème, c'est qu'un cortège de 200 000 personnes n'était pas gérable dans une ville comme Gênes. Ça a été une énorme erreur, selon moi. Il n'y avait pas d'organisation générale. Il y avait une série de bouts de cortège, aucun sur ses objectifs. Organisation, zéro.
Sur la question logistique, quello che hai chiesto tu,
À propos de la question sur la logistique, je me souviens que les jours qui ont précédé Gênes, beaucoup parlaient d'un piège, un énorme piège. Le choix de cette ville semblait déjà indiquer ce qui allait se passer ensuite. Comme lui, beaucoup de gens ne voulaient pas y aller.
Che la cosa poteva andare
parce qu'ils sentaient que tout pouvait mal tourner. Ils avaient déjà vu de gros cortèges du même genre. Mais imaginez un gros cortège dans cette ville. Elle était coincée entre la montagne et la mer. Mais il y avait aussi toutes ces rues très étroites. Ceux qui avaient un peu plus d'expérience entrevoyaient déjà la possibilité de ce qui allait arriver. L'autre chose dont je me souviens et qui m'avait beaucoup impressionné du point de vue purement logistique, c'était, je crois, le jeudi soir, c'est-à-dire la veille des manifestations plus importantes qu'il y a eu. Les G8, c'est-à-dire les grands, qui se retrouvaient pour le sommet, étaient tous au port. Il y a aussi cette question sur la zone rouge qu'ils ont ensuite utilisée. Mais c'est la première fois qu'ils ont redessiné une ville de manière aussi nette à cause de manifestations. Je me souviens que le jeudi soir, un transport de containers est arrivé au port. On est allé voir. Il y avait des dizaines, voire des centaines de containers utilisés en logistique pour créer une énorme barrière le long du port. J'étais jeune, j'avais 16 ans, mais j'avais l'impression qu'il se préparait quelque chose de vraiment énorme pour le lendemain. Je suis arrivé le mercredi, donc sans doute, à part ce que j'ai raconté sur les containers, la machine était déjà en place.
La città, cioè tanti se n'erano andati dalla città, tanti abitanti di Genova se n'erano andati proprio per.
Mais je me souviens que beaucoup d'habitants de Gênes étaient partis pour ne pas être là pendant les manifestations.
Che aveva evocato lui prima, perché veramente per mesi sui giornali avevano detto.
C'était aussi à cause du climat alarmiste qu'ils avaient évoqué. Pendant les mois qui ont précédé, les journaux répétaient tout et n'importe quoi. Le plus absurde que j'ai vu, juste pour donner une idée, c'est qu'ils disaient que les manifestants allaient attaquer la police avec des avions télécommandés remplis de sacs de sang infectés par le sida. Pour dire un peu le niveau de fantasmagorie. En tout cas, beaucoup d'habitants de Gênes étaient inquiets et ont quitté la ville. Mais je me souviens aussi de beaucoup d'actes de solidarité. Par exemple, le mercredi ou le jeudi soir, je ne sais plus, il avait beaucoup plu. La pluie avait vraiment été très forte. Dans le camping où j'étais, il y avait plusieurs campings à travers la ville. Tout était trempé, les tentes et tout ça. Deux voitures d'habitants de Gênes sont arrivées, remplies de couvertures et de choses chaudes qu'ils nous avaient apportées. Pendant les manifestations aussi, on me donnait de l'eau, on te rafraîchissait en te lançant de l'eau des terrasses et tout ça. Gênes est aussi une ville qui a une histoire de résistance. Et donc, il y a eu de la solidarité.
Io la cosa che ho trovato che mi ha fatto pensare subito.
Comme je vous l'ai dit, je suis allé à Gênes parce qu'ils ont assassiné un compagnon et que j'ai pensé que j'aurais un tas de difficultés à entrer dans Gênes. En fait, ce qui m'a sidéré, c'est qu'après la mort de Giuliani, tu entrais dans Gênes comme si tu allais en vacances. J'ai dit, mais pourquoi ils m'ont laissé entrer si librement? Peut-être parce qu'après, ils nous ont massacrés. Le problème, c'était de sortir de Gênes, pas d'y entrer. Ça m'a fait beaucoup réfléchir après. Pourquoi ils avaient fait ce choix? Je me le demande toujours. C'était trop facile d'entrer à Gênes, et on ne comprend pas pourquoi. C'était la première fois qu'ils ont utilisé des lacrymogènes CS. Qui est un type de lacrymogène qu'ils utiliseront toujours plus dans les années qui suivront. Au Val de Suse aussi. Et qui a des effets beaucoup plus forts. Mais en règle générale, ce genre d'exemple, il y en a plusieurs.
Pour élargir un peu, on peut dire que Gênes a été tout de suite vue comme un état d'exception.
Une
suspension
de
la norme de la légalité pendant quelques jours. Ce qu'on n'avait peut-être pas compris à l'époque, c'est que cette suspension, cette exception, n'allait pas se limiter à ces jours-là, mais que ça allait ensuite devenir l'ordinaire. Toute une série de choses très particulières qu'on voyait comme des choses exceptionnelles à Gênes. On les a retrouvées toujours plus nombreuses les années qui ont suivi. La
construction del nemico, dei black bloc,
lacrymogène CS, zone rouge, construction de l'ennemi Black Bloc, utilisation de certains délits pour condamner les manifestants, toute une série d'innovations qu'on avait alors perçues comme des faits exceptionnels, liés à un événement historique précis, n'étaient en réalité pas des exceptions, mais le commencement d'un ordre nouveau, d'un nouveau moyen de gérer l'ordre public. Ça a inauguré une nouvelle phase, qu'on peut évidemment clairement lier aux changements qu'il y a eu au plan international, avec le 11 septembre.
Ma anche la scelta del, bueno, quello che ho vissuto io quel giorno.
Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'était dans un cortège très pacifique.
Cioè, dove non c'erano i cosiddetti black
bloc. Il n'y avait pas de soi-disant black bloc ou de militants enclins à faire je ne sais quoi.
La scelta della polizia,
le choix de la police, de la garde des finances, inerme,
dove c'è
gente, a été d'attaquer un cortège inoffensif.
Loro tentativo, almeno quello che io ho pensato, era quello di dire, in
d'après moi, ce que ça tentait de dire, c'était
«
voilà ce que vous risquez dans la rue ». Alors vous ne devez plus venir dans la rue. Ils nous ont donné une leçon, un signal effrayant pour que seulement les militants continuent à descendre dans la rue. C'est-à-dire ceux qui sont super convaincus de faire des choix, des choses. Les gens normaux, ordinaires, qui viennent avec les poussettes, les enfants, la famille, ne doivent plus aller dans la rue. Sinon, voilà ce qui arrive. J'ai vraiment eu cette impression parce que, là où on était, il ne se passait rien. Ils nous ont lourdement chargés, tapant sur tout le monde. Je me suis demandé, pourquoi ils font ça? Parce que tu ne dois plus descendre dans la rue. Tu dois rester à la maison, ne sortir que pour voter. Et surtout, voter ce qu'on dit de voter. Ils ont répandu la peur dans la rue. Et par la suite, il n'y avait plus que les militants qui descendaient dans la rue.
Io posso dire che è un po' strano perché ero piccolo e secondo me quando sei così giovane sei anche
c'est
molto
un peu étrange.
Quindi io non mi sono portato dentro paura.
J'étais jeune et à cet âge-là,
forse maggiore
convinzione, on est inconscient.
Voglia di esserci, voglia di fare, non ho un ricordo.
Je n'ai pas eu peur après Gênes.
Se ci penso adesso,
c'est peut-être la force des convictions, l'envie d'y être.
Ho delle cose che poi non ho più rivisto.
Je n'ai pas souvenir d'avoir eu peur.
Cioè, se penso alla quantità di,
quand j'y repense, j'ai vu des choses que je n'ai jamais revues les années qui ont suivi. Comme la quantité de gens qui étaient là, surtout le samedi, le dernier jour donc. Je me souviens que le vendredi, j'avais quitté le camping pour aller au point de rassemblement du cortège auquel je voulais me joindre. Et je ne suis jamais arrivé parce que tout était déjà un chaos général. Je n'ai donc même pas réussi à atteindre l'endroit où mon cortège devait se rassembler. Parce qu'il y avait déjà des charges, des affrontements. C'était une journée de grande confusion. On n'arrivait pas à déterminer quoi que ce soit, mais la police déterminait tout. C'est mon souvenir de gamin, mais je n'avais pas une vue d'ensemble de tout ce qui se passait. Le samedi, je ne me souviens pas de la peur, mais j'ai vu tellement de sang. J'en avais jamais vu autant. Du sang par terre, des têtes cassées, beaucoup de gens avec leurs mains blanches. Ils peignaient leurs mains en blanc et les levaient vers la police en signe de paix. Mais là, ils avaient la tête ensanglantée parce qu'ils avaient été durement tabassés. Les images qui me restent sont bien sûr terribles. Mais l'émotion dans laquelle j'étais arrivée n'était pas de ce genre-là. J'étais juste en rage contre la police. J'étais en admiration envers ceux qui, par contre, ce jour-là, ont aussi réussi à exprimer une rage face au capitalisme,
au puissant.
Et, exemple, anche quelli che venivano chiamati Black
Bloc, par exemple, même ceux qu'on appelait les Black Bloc, que je trouvais un peu étrange quand je les voyais circuler avec leurs tambours. C'était quelque chose d'un peu distant pour moi. Mais aujourd'hui, je me dis que ce sont les seuls qui avaient réussi à faire quelque chose pendant ces journées. Ils avaient au moins attaqué les prisons. Moi, par contre, je n'ai fait que fuir. Je n'ai pratiquement fait que fuir la police pendant 3 jours. Somme toute, eux avaient quand même réussi à faire quelque chose. L'image qui m'est restée, je
ne
sais pas si vous voyez comment est Gênes, il y a le front de mer, la rue où passait le cortège, et en dessous, il y a des barques, des rochers. Après les charges de la police, on voyait des gens qui se jetaient en bas et se brisaient les jambes avec des hurlements terrifiants. Ils se cassaient les jambes en se jetant du haut de 5 ou 6 mètres pour éviter la police. Ça m'est resté. Moi et 3 personnes, qui étaient bien plus jeunes que moi, on a réussi. Je les ai emmenés vers une petite colline qu'il y avait là. La charge nous est passée près. Il y avait plein de lacrymogènes. Mais la scène qui m'a vraiment laissé mal, c'est de voir tous ces gens qui se jetaient du haut de 5-6 mètres pour éviter d'être frappés par la police. D'où des jambes cassées, des bras cassés, des hurlements. Et ça m'est resté en tête. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à lutter personnellement. Mais beaucoup de ceux qui étaient avec moi, ou à qui j'avais parlé après dans le cortège, dans la rue, je ne les ai plus jamais revus. Le plus moche, en général, c'est qu'après, déjà le deuxième jour, après qu'ils aient tué Carlo Giuliani, dans le camping où j'étais, la tension des organisateurs du camping, c'était surtout d'essayer d'empêcher ceux qui portaient un sweatshirt noir d'entrer dans le camping. Toute la tension s'était déjà reportée sur un ennemi intérieur. On avait intériorisé les instructions de la police pour fracturer, rompre le mouvement. C'est grâce à cet élément central que la répression a ensuite pu vaincre. Sur la désolidarisation, si un mouvement explose alors qu'il n'arrivait même pas à être uni au départ, comme il l'a dit, il y avait trop de contradictions entre les courants. Les courants pacifistes, non-violents, où la non-violence est vue comme un choix pragmatique et stratégique. Il ne s'agit pas de violence, non-violence. Mais on ne peut pas affirmer que la non-violence soit un terrain d'intervention privilégié. Entre autres, toutes les composantes, disons, plus pacifistes, ont toutes été attaquées dans la rue. Les composantes, disons, plus actives, plus militantes, ont réussi plus ou moins à tenir leur position. Ils se repliaient si nécessaire. Ils veillaient les uns sur les autres. Il n'y avait pas de fuite générale, où chacun pense seulement à lui et où c'est le sauf qui peut. Si tu es organisé, tu as un peu d'espoir. Si tu es seul dans la foule, dans un cortège que tu crois tranquille, juste parce que tu es pacifique, Gênes t'a montré que ça ne se passe pas comme ça. Il y a même eu volonté d'attaquer, justement pour causer de la peur à tous les secteurs qui commençaient à descendre dans la rue. Gênes est la fin d'une vague qui a commencé dans les années 90 avec la Pantera. Et après, avec la contestation sur le Koweït, l'Irak. Le mouvement des années 90 était né là. Après, il y a eu les contre-sommets, les occupations, tout un mouvement qui s'est complètement tari à Gênes en 2001. C'est même toute une époque qui a changé à Gênes en 2001. L'époque a changé et on se trouve dans une situation actuelle dans laquelle les rapports ont changé. Le réformisme aussi a changé. Toute la structure de la gauche réformiste a complètement disparu parce qu'il n'y a plus de réformisme possible. No? Ceux qui parlent encore de réforme aujourd'hui sont de droite.
E quello è stato l'epilogo di quel periodo.
C'est toute une époque qui s'achève.
Nell'affrontare
voilà ce qui était l'épilogue de cette époque,
non solo la piazza,
et aussi d'une certaine ingénuité dans l'affrontement. Pas seulement dans la rue, mais aussi au plan politique. C'est un opportunisme dans l'affrontement politique. Opportunisme qui a mené à la désolidarisation et à la dissociation. C'est ce qui a fait le plus mal, surtout dans les jours qui ont suivi. On devait se méfier des compagnons de certains secteurs du mouvement. Voilà ce qui a fait le plus mal.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio. Se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Prix Goncourt 2017 pour l'ordre du jour, le romancier Éric Vuillard est membre actif du comité de soutien de Vincenzo Vecchi. Porteur de la tribune du journal Le Monde qui a régi les signatures de 138 personnalités, il était à Rennes pour la conférence de presse donnée par le comité de soutien le 17 octobre. Son texte réveille Zola en d'autres circonstances. C'est un réquisitoire qui s'adresse aux juges et à la justice et tente de remettre à l'endroit un monde qui a la tête à l'envers.
Bonjour à tous. Alors je vais développer quelques éléments qui concernent l'affaire et évoquer aussi le contexte en même temps politique et judiciaire. Alors la liberté est indivisible. C'est un point qui est fondamental de notre histoire. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 ouvre une séquence nouvelle dans la vie sociale, où la liberté serait un droit imprescriptible et où nul ne pourrait être inquiété pour ses opinions. De ce point de vue, officiellement partagé par tous, l'affaire Vincenzo Vecchi est ahurissante, c'est ce que tu évoquais en terminant. En août de cette année, sur le fondement de demandes d'arrêt européens, l'État italien a demandé que lui soit remis Vincenzo Vecchi, qui venait d'être arrêté en Bretagne, où il vivait depuis 8 ans. Le premier mandat d'arrêt est lié à sa participation en 2006 à une manifestation à Milan contre une manifestation d'extrême droite. La manifestation d'extrême droite est autorisée, la manifestation contre l'extrême droite est interdite, ce qui est un comble. Or, il vient d'être démontré donc récemment, lors de l'audience du 26 septembre, qu'un fait essentiel a été dissimulé par la justice italienne, que tu évoquais également, Vincenzo Vecchi a déjà purgé sa peine. Il a passé plus de 7 mois en prison et pendant environ 5 mois, il a été assigné à domicile. Or, c'est un principe fondamental du droit qu'on ne peut condamner quelqu'un 2 fois pour les mêmes faits. Mais il y a au fond plus grave. Concernant le mandat d'arrêt relatif à la manifestation de Milan, le raisonnement de la justice italienne est stupéfiant. La défense ayant démontré, lors de cette précédente audience, que Vincenzo Vecchi avait purgé sa peine, la justice italienne, plutôt que de retirer son mandat, aggrave son cas. Tentant de justifier sa démarche, elle admet en fait avoir menti. Et si la justice italienne maintient un mandat sans fondement, c'est afin qu'au vu de cette condamnation déjà purgée, la peine très lourde qu'il encourt dans le cadre de l'autre mandat semble moins révoltante. La conjonction des deux faisant passer Vincenzo Vecchi pour un dangereux récidiviste, c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. Voyons à présent donc l'autre volet de l'affaire, celui de Gênes. Il faut bien remettre ce mandat d'arrêt dans le contexte des événements sur lesquels il porte. Il s'agit des manifestations contre le G8, évoquées tout à l'heure. Et tout d'abord, rappelons qu'il y a eu donc un mort à Gênes, Carlo Giuliani, tué par les forces de l'ordre, et des centaines de blessés du côté des manifestants. Cela fait un lourd bilan, comme on dit. On nous y a malheureusement déjà habitués. Que des manifestants soient blessés, qu'il y ait un mort même, cela nous est désormais présenté comme un événement malheureux, pas comme un événement inadmissible. Cela nous est présenté sous le registre du bilan. Un mort, 600 blessés du côté des manifestants, de nombreuses voitures brûlées, des banques et des agences immobilières détruites. Tout cela est présenté sur le même plan, dans le même inventaire, les vitrines cassées, les blessures graves et le cadavre. À Gênes, la répression policière a laissé un cuisant souvenir. C'est pourquoi le mercredi 19 juillet 2017, dans un entretien à La Repubblica, le chef de la police italienne, Franco Gabrielli, reconnaît qu'à Gênes, je cite, un nombre incalculable de personnes innocentes ont subi des violences physiques et psychologiques qui les ont marquées à vie. Mais il va plus loin. Évoquant les sévices infligés aux manifestants conduits à la caserne de Bolzaneto, il la compare au garage Olimpo en référence au sinistre centre d'interrogatoire de la dictature argentine. Ce sont les mots du chef de la police italienne lui-même. Ils permettent de se faire une idée du contexte. À Bolzaneto, ajoute-t-il, il y a eu des actes de torture. Pour qu'un responsable de la police reconnaisse, sans euphémisme, des actes de torture, il faut que la répression ait été vraiment cruelle, hors des normes imposées par le droit. Mais pour qu'une telle reconnaissance ait lieu, il aura fallu attendre 16 ans. Le jeudi 5 juillet 2012, la Cour de cassation italienne avait déjà confirmé la condamnation de 13 hauts responsables de police pour la répression des manifestations lors du sommet du G8. Pour que des policiers soient condamnés, il faut malheureusement que les faits soient d'une gravité exceptionnelle. Mais pour que leur responsabilité dans les violences soit reconnue, il avait fallu attendre 11 ans. Alors qu'un manifestant Carlo Giuliani a été tué par balle par un policier et que des centaines de personnes ont été gravement blessées, la condamnation s'est limitée à une exclusion de la fonction publique pendant 5 ans. Revenons à présent au mandat d'arrêt européen concernant les événements de Gênes et réclamant donc la remise à la justice italienne de Vincenzo Vecchi. Tout d'abord, notons que cela intervient 18 ans après les événements, qu'il a fallu 11 ans pour juger les crimes avérés de la police italienne, 16 ans pour qu'il soit enfin reconnu que la police avait commis des actes de torture, mais que malgré ces aveux terribles, malgré l'amnistie générale dont bénéficièrent les policiers, une bien mauvaise rancune s'abat au bout de 18 ans sur Vincenzo Vecchi. On le sait, le droit punit, mais il doit aussi oublier. Au bout d'un certain délai, toute peine se prescrit, et en droit français, l'auteur, même d'un crime, au bout de 20 ans, ne peut plus être poursuivi. Or, Vincenzo Vecchi est un simple manifestant, ce n'est pas du tout un criminel. Il n'est pas du tout accusé de violence physique. Pourtant, l'Italie le réclame pour des faits datant aujourd'hui de plus de 18 ans. Mais ce n'est pas tout. Pour les événements de Gênes, l'Italie a voté une amnistie. Je ne rentrerai pas dans les arguments juridiques afin de voir si elle devrait s'appliquer à Vincenzo Vecchi. On comprendrait cependant mal qu'elle permette aux policiers responsables de la mort d'un homme par balle ou d'actes de torture, qui sont les crimes les plus graves et les plus odieux, de ne subir qu'une exclusion temporaire de la fonction publique, alors que la justice poursuit encore 18 ans plus tard Vincenzo Vecchi en le condamnant à une peine de 12 ans de prison. Il faut ici préciser deux choses. Dans le dossier concernant Gênes, les faits pour lesquels l'Italie réclame Vincenzo Vecchi ne sont pas établis. Sur la seule photographie où l'on peut l'identifier avec certitude, il est en train de boire une canette de bière devant une enseigne, certes saccagée, mais cela ne constitue en aucun cas une preuve qu'il ait participé au saccage. Il doit, comme tout le monde en pareil cas, tu le rappelais, bénéficier de la présomption d'innocence. Enfin, ces faits sont de toutes les manières mineurs en regard de la peine très lourde qu'il encourt. Ce n'est pas une paille, 12 ans. La gravité de cette peine laisse une impression pénible. Pour ceux qui ignorent tout de l'affaire, elle semble presque plaider contre lui. Un pays démocratique comme l'Italie ne jetterait pas un innocent en prison pendant 12 ans. Voilà ce que se disent spontanément ceux qui n'ont pas le temps de s'attarder. Or, c'est tout l'inverse qu'il faut penser. C'est tout l'inverse que le sentiment de justice doit nous inspirer. Cette peine disproportionnée, délirante, qui ne pourrait être que la condamnation d'un crime de sang, que nous imaginons tous aussitôt punir un meurtre, sans quoi elle serait un meurtre elle-même, eh bien en réalité, elle vise à punir la destruction de biens, le pillage de marchandises, avoir exhorté d'autres manifestants à la lutte et des jets de projectiles. Et cela, sans preuve tangible, sur la base de photographies où apparaissent des individus cagoulés, non identifiés, et parce que sa seule présence sur les lieux constituerait l'infraction. La justice italienne demande qu'on lui livre quelqu'un sans apporter la moindre preuve pour des faits mineurs et très anciens et sur la base de 2 mandats d'arrêt dont l'un est un faux manifeste, une manœuvre qu'elle assume impudemment. On pourrait dire qu'en toute logique, réclamer qu'une personne vous soit livrée en dissimulant qu'elle a déjà accompli sa peine constitue un crime. La justice italienne ment, et en la matière, lorsque tant d'années de prison sont en jeu, tant d'années à vivre, 12 ans, le mensonge est un crime. Alors, évidemment, on se demande pourquoi un tel acharnement, pourquoi 18 ans plus tard réclamer un homme qui a purgé sa première peine et dont la deuxième condamnation est pour le moins douteuse. Une seule raison à ça, Vincenzo Vecchi est ici un exemple, un symbole. L'État italien instrumentalise cette affaire. Elle touche un manifestant, un militant même, et on le voit un peu partout désormais, il vaut mieux éviter de manifester. Il vaut mieux sagement participer aux réunions citoyennes que l'État organise. Le droit de manifester est en danger, les libertés publiques reculent, nous le savons tous. Après nous être demandé, pendant des dizaines et des dizaines d'années, comment nos justices, nos structures politiques, les actes, les pensées, avaient pu se métamorphoser à ce point dans les années 20 et 30 du siècle dernier. Après avoir désespérément interrogé l'histoire dans tellement de livres, de films, en se demandant sans cesse comment de telles horreurs avaient pu se produire, mais surtout comment d'autres hommes y avaient consenti, tandis qu'il nous manquait une expérience concrète de ces phénomènes, du glissement des pratiques, de la destruction du droit, de la tolérance au pire, voici que désormais nous en faisons l'expérience sans nous en apercevoir. Éveillés depuis 60 ans, alertés, bouleversés, nous tâchions de regarder l'histoire en face, mais nous ne pouvions pas la comprendre. Il nous manquait d'être familiers avec la régression du droit et de savoir comment l'on s'en accommode. Et voici qu'à présent, nous en faisons l'expérience. Nous avons vu 150 adolescents à genoux pendant plusieurs heures, face contre le mur, mains sur la tête, dans un terrain vague, devant leur lycée, et nous avons simplement qualifié cela d'image choquante. Mais à présent que les libertés publiques régressent à chacune des lois adoptées afin de prétendument renforcer la sécurité de tous, maintenant que l'on peut assigner à résidence sans l'intervention du juge, maintenant que l'état d'urgence a été prolongé 2 années entières, qu'une incarcération peut continuer alors qu'on a purgé sa peine, que la dénonciation moyennant rétribution a été pratiquée à grande échelle, alors que désormais nous devrions comprendre comment les choses dérapent, eh bien nous ne les voyons plus. Pourtant, dans le cas de Vincenzo Vecchi, cela saute aux yeux. Il manifeste à Gênes. Le chef de la police italienne a parlé d'actes de torture de la part des policiers sur les manifestants. Les policiers coupables d'un mort et de sévices graves sont seulement suspendus pendant 5 ans. Les preuves des délits que Vincenzo Vecchi aurait commis sont nulles et pourtant, on réclame contre lui 12 ans de prison. Il participe à une manifestation contre l'extrême droite à Milan. La manifestation d'extrême droite est autorisée. La contre-manifestation est interdite par un mystère de l'appréciation souveraine de la préfecture. Il est jugé en fonction d'une loi adoptée sous Mussolini, qui permet de condamner quelqu'un simplement parce qu'il se trouve sur les lieux d'une manifestation ayant mal tourné. Sa seule présence le rend complice. Et voici que la justice italienne réclame qu'il soit livré, dissimulant que la peine a été purgée. Dissimulant qu'il a été en prison pour des faits mineurs ou inexistants et au nom d'une incrimination d'un autre temps. Enfin, pourquoi fait le tout ? Lorsqu'on fait remarquer à l'Italie que la peine a déjà été exécutée et qu'elle a omis de transmettre des documents essentiels, au lieu de s'excuser platement et de retirer aussitôt ce mandat d'arrêt européen parfaitement caduque, voici au contraire qu'elle le justifie. C'était, nous dit-elle, pour justifier sa sévérité dans l'affaire antérieure. On dirait bel et bien un cauchemar. Et tout cela est d'autant plus insupportable que Salvini est ministre de l'Intérieur tandis que l'affaire est relancée. Le même Salvini qui a écrit dans un tweet « Autant d'ennemis, autant d'honneur », plagiant le slogan « Beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur » employé jadis par Mussolini. Dans un tel contexte, après de tels reculs de nos droits, tandis qu'une offensive inquiétante est lancée de toutes parts contre les libertés, il faut que les juges français aient le courage de dire non. Tandis que la Cour de justice de l'Union européenne est saisie par un nombre croissant de recours qui fragilise le mandat d'arrêt européen, comme le rappelait encore très récemment un article du journal Le Monde, car dans toute procédure simplifiée, moins de procédures signifie avant tout moins d'avocats, moins de juges, moins de justice et surtout moins de garanties. Tandis que dans cette affaire, la peine encourue par Vincenzo Vecchi est de 12 ans, les juges français doivent dire non. Les journalistes français doivent couvrir attentivement cette affaire. Nous devons tous dire non. Sans quoi, à quel silence nos noms resteront attachés ?
Nous remercions les radios pour leur soutien et leur diffusion. Nous vous rappelons l'adresse de notre site, où vous trouverez les liens vers nos émissions précédentes, ainsi que de nombreux autres liens et documents, en particulier à propos du mandat d'arrêt européen. www.comité-soutien-vincenzo.org et facebook@soutienvincenzo. Pour les chansons, vous avez entendu un extrait de Piazza Alimonda de Francesco Guccini et Canzone del Maggio de Fabrizio De André. C'était une émission du comité de soutien à Vincenzo Vecchi de Rochefort-en-Terre. A bientôt. Merci.
Poi dall'ultima galleria sembra mai più poter riaprirsi il sole quando luccica sul fondale dalla rugginosa ferrovia dalle budella della grande vedova dritto in faccia a un muro alto porta principe in un sussulto ti vomita addosso a Genova. Io quando tornerò a Genova per prima cosa col caffè di rito nel piazzale della stazione dal baracchino il passo addormentato lo muoverò per riconquistare la dignità di me stesso al mondo ed il dovere di camminare a testa alta guardando il fondo guardare a fondo guardare il mare.